18h dans le studio Kalangou, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans ce journal au micro Nafis Adam Sirfo. Les titres de ce journal, 5 mois après l'apparition de la fièvre de la vallée de Rift dans plusieurs départements de Tawa, nous faisons ce soir le bilan de cette maladie avec le préfet de Tintabaraden. Un autre bilan, celui du paiement des pécules des enseignants contractuels de l'enseignement, c'est à retrouver avec un membre du SINASEB. Quelques jours après la fermeture par décret du ministre de la Santé publique des cliniques Nima, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSASA se prononce. Dans la partie magazine de ce journal, il sera question du redéploiement des agents de santé dans tout le pays annoncé par le président de la République. Tout d'abord, nous commençons ce journal par une page santé pour faire le point sur la fièvre de la vallée du Rift, cette maladie virale qui touche principalement les animaux mais aussi les hommes, s'est déclenchée en août 2016 au Niger. 5 mois plus tard, où en est-on, Adam Dawaki a posé la question à Abankawel Ilitin, préfet de Tintabaraden, région de Tawa.
À la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré au niveau de l'hôpital de district dans lequel il y a eu un camp d'isolement des malades de la fièvre de la vallée du Rift, 366 cas enregistrés. Sur le 366, nous avons 30 cas de décès, 336 guéris. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons aucun malade dans le centre d'isolement de la fièvre de la vallée du Rift. Maintenant, il y a eu tout un équipement de produits qui ont été mis à disposition par l'État et l'OMS au niveau de l'hôpital de district de Chinta, pour lesquels on a redéployé 5 médecins spécialités diverses qui sont venus en appui aux médecins que nous avons déjà. Il y a des Nigériens, il y a des expatriés. Jusqu'ici, je ne saurais vous dire quelle a été l'ampleur du dégât du côté du cheptel. Ce qui est sûr, il est important. Le dispositif qu'on a aujourd'hui ne nous permet pas de faire ce diagnostic en temps réel et de comprendre. Donc, nous sommes dans le processus de mettre à la disposition des services techniques de l'élevage les outils nécessaires qui vont leur permettre d'effectuer ce diagnostic dans un délai relativement court.
La clinique Nima, avec 2 de ses annexes, a été fermée la semaine dernière par décret du ministre de la Santé publique. Dans ce décret, il est dit que le promoteur de ces cliniques a violé la loi car n'ayant pas obtenu l'autorisation d'ouverture de ces cliniques. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSASA approuve cette action. Écoutons Bobawa Boubacar, secrétaire général de ce syndicat.
L'ensemble des informations complétées que nous avons eues répondent d'abord à un résultat de l'inspection générale qui ressort que ce sont des cliniques qui portent le même nom et qui ont le même propriétaire et que le même propriétaire n'a aucune autorisation. Il y a une loi qu'il faut rappeler du 15 juin 1998 qui porte sur l'exercice privé en santé. Et cette loi, elle a bien précisé, si vous allez faire un cabinet, une salle de soins ou une clinique, il faut qu'il ait une autorisation du ministère de la Santé publique. D'autre part, cette même loi a bien dit, si vous allez faire l'exercice privé, il faut que vous soyez en disponibilité. Elle dit encore, il faut que vous soyez au moins retraité. Aussi, il faut que vous quittiez la fonction publique. Ou bien elle dit, ne commencez même pas avec la fonction publique. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans une des dispositions, vous violez la Constitution. Alors, s'il y a une autre clinique ou qu'il n'y a pas une autre clinique, le fait de commencer, nous serons en tout cas très rassurés que si on poursuit, on va trouver d'autres cabinets ou d'autres cliniques. Si au moins la santé publique de prendre son courage, pour le moment, nous pouvons qu'il encourager quand même à poursuivre.
Bobawa Boubacar, secrétaire général du SUSASA. On se souvient que dans le protocole d'accord signé avec la coalition Cause Niger-SINASEB, le gouvernement a pris l'engagement d'apurer les arriérés de pécules des enseignants contractuels à la date du 31 décembre dernier. Que peut-on retenir de cette promesse en ce 2 janvier 2017? Élément de réponse avec Issaka Omaru, membre du bureau exécutif du SINASEB.
Par rapport à ça, nous allons tirer un bilan satisfaisant parce que déjà ce paiement a été amorcé il y a plus d'une semaine et à la date où je vous parle, l'intégralité des arriérés de pécule est en train d'être payée parce que au niveau des PERI, déjà il n'y a plus d'arriérés de pécule. C'est seulement au niveau des mutuelles et caisses que quelques petits problèmes liés au virement ont retardé ces paiements et nous avons des informations selon lesquelles aujourd'hui l'ensemble des mutuelles et caisses aussi vont commencer à payer le dernier mois d'arriéré ce lundi. Toujours par rapport au paiement des arriérés, il y a quelques petits soucis qui ont émaillé ce paiement parce que la Halcia a fait sortir une liste sur laquelle se trouvent 2000 et quelques camarades qui se sont vus priver leur pécule. Suite à des discussions par rapport à ce point, des instructions ont été données pour que ces camarades rentrent immédiatement dans leurs droits.
Des propos recueillis par Asmana China. Dans son adresse à la Nation à l'occasion de la fête du Nouvel An, le président de la République, Issifou Mahamadou, a évoqué le récent rapport de la Banque mondiale qui classe le Niger comme le pays ayant engagé le plus de réformes en Afrique subsaharienne. Un classement qui ne manquera pas de susciter beaucoup de commentaires. Voici ce soir celui de l'économiste et homme politique nigérien Sanoussi Tambarijakou. Pour lui, ce bond dans le classement est le fruit des efforts du gouvernement.
On sait que dans le monde, il y a des pays où il est même très difficile de pénétrer. Il est très difficile d'importer. Il est très difficile d'exporter. Le problème de transfert de capitaux. On sait tout ça là. Alors évidemment, dans le cadre de ces classements-là, on cherche à savoir quel est le pays, ou bien quels sont les pays où les opérateurs économiques investisseurs sont les plus à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit ici là. Alors évidemment, il y a des pays où c'est très facile, où il n'y a pas de gêne, où il y a même de bonnes conditions d'opérer. Ce sont eux qui sont les premiers. Le Niger faisait partie des pays où les conditions d'exercice du commerce et des opérations économiques étaient très difficiles. Mais progressivement, avec le régime du président Issoufou, la situation est en train de s'améliorer et le Niger est en train de devenir un pays fréquentable et fréquenté.
Propos recueillis par Mokhtara Hamadou. La question de la sécurité routière reste d'actualité à Agadez en ce début d'année. Il est vrai que malgré les nouvelles infrastructures routières dont s'est dotée la ville d'Agadez, plusieurs accidents se sont produits ces derniers jours dus vraisemblablement à l'incivisme de certains conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Le directeur régional de transport d'Agadez, Mahamadou Boubacar, appelle donc au respect de la réglementation. On l'écoute.
Si on constate des accidents de circulation, c'est dû au fait, je crois, que les gens sont en train de savourer la qualité du travail qui a été fait, que l'état de la route qui est très bon. C'est pas aussi une raison de ne pas respecter les règles de la circulation. Donc, j'en appelle ici et à la conscience des usagers qu'il faut vraiment respecter les règles de la conduite. Il faut observer la réglementation en vigueur. Vous savez très bien que il vous est interdit quand vous êtes en train d'aller d'un sens, quoi, de vous retrouver dans le sens inverse là où vous allez rencontrer les autres usagers. Donc, restez à votre droite, comme le dit le code. Deuxièmement, il faut respecter les panneaux de circulation un peu partout dans la ville. Tant que vous n'êtes pas à bord de votre véhicule, il est interdit à ce que vous positionnez votre véhicule, vous sortez et puis allez faire ou bien vous asseoir quelque part. Dans ces conditions-là, vous êtes en train de diminuer la largeur de la route, et ce qui provoque aussi les accidents. L'appel que je lance ici, c'est que nos collègues forces de l'ordre multiplient encore beaucoup d'efforts pour surveiller la circulation, surtout aux heures de service, aux heures de pointe.
Toujours à Agadez, le site aurifère du Djado dans le nord du pays se vide doucement de ses orpailleurs et cela pour obtempérer à la décision prise par le gouvernement ordonnant à ses occupants de partir. Pour Abou Soufiani, un jeune orpailleur de Maradi vivant sur le site, les conditions se compliquent davantage pour eux. Il a été joint au téléphone ce matin par Mohamed Maman.
Nous avons déjà épuisé un mois dans le temps qui nous a été accordé. Il nous reste 2 mois avant de quitter les lieux. Présentement, le site est en train de se vider car chaque semaine, au moins 3 camions transportant des orpailleurs quittent. Le Jado, qui est un attroupement de jeunes et des adultes, nous est interdit. Alors que les gens viennent ici pour s'en sortir, parce que la saison agricole n'a pas été bonne dans nos villages. La Libye, l'Algérie et le Nigeria ne sont plus aujourd'hui des destinations sûres. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? La situation est compliquée. Lorsqu'on est venu chercher ce ferreur, et les voleurs nous attaquent de partout, en nous dépouillant du peu que nous avons, et parfois même nous tuent.
C'était là le témoignage d'un des orpailleurs de Maradi à Djado. La 38e édition du Sabre national est à sa phase finale. Après les compétitions préliminaires qui ont pris fin hier, ce matin, deux combats des huitièmes de finale ont eu lieu. Ils continuent cet après-midi. Des prix ont été décernés aux anciens champions. Le point de cette mi-journée avec Sekou Berry Ibrahim, journaliste sportif de l'ORTN, joint sur place par Soumana Amadou.
C'est en fait dans une arène archée comme ce matin que se sont déroulés les huitièmes de finale du Sabre national édition 2016. Le premier combat a opposé Yacoub Adamou de Niamey à Murtala Garba Gouassale de Maradi. Un combat donc qui a vraiment tenu en haleine le public jusqu'au bout. Et le lutteur de Maradi a dominé le combat. Comme en sport, dominer n'est pas gagné, Yacoub Adamou a mis en branle toute son expérience pour venir à bout de son adversaire après 5 minutes de combat. Le deuxième combat, moins intéressant que le premier, il a opposé Sané Douda d'Agadez à Tassou Ibrahim de Niamey. Un combat qui s'est achevé au bout d'une minute. En effet, le lutteur de Niamey, sans doute excité par l'enjeu, avait voulu en finir très rapidement avec son adversaire. Malheureusement, celui-ci esquive Tassou Ibrahim de Niamey et utilise la même force de Tassou pour lui faire mordre la poussière par une girouette. Donc ce matin, il y a eu également un concours de mode en lutte, c'est-à-dire mode vestimentaire, lutte. On a également récompensé les anciens lutteurs et on a même vu deux anciens lutteurs rentrer dans l'arène pour vouloir combattre. Le vieux Kassou Kassou Gaye, Dambor Roger, ça faisait quand même pitié. Vraiment, ils ont fait quelques exercices de lutte.
Et nous vous informons que pour le premier combat, Yacoub Adamou de la ville de Niamey a terrassé le lutteur de la région de Tawa, Abdusalam Soumeila. Le deuxième combat, Lawali Dantambay, lui a terrassé Tankoura d'Agadez. Yahya Kaka de Tawa a lui également terrassé Saleh Douda d'Agadez. La région d'Agadez est donc éliminée de la course.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de cette édition, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a dans son message à la nation du nouvel an parlé de l'inégalité dans la répartition des médecins entre Niamey et l'intérieur du pays. En région, beaucoup de centres de santé installés n'ont toujours pas de médecins. Le chef de l'État a promis de s'attaquer au problème. Le syndicat des pharmaciens et médecins Saint-Famed estime que cette décision est salutaire. Écoutons le docteur Haro Moussak, la secrétaire du Saint-Famed.
Il faut décongestionner Niamey parce que la plupart des médecins, que ce soit spécialistes ou généralistes, la plupart étaient à Niamey. Vraiment, l'intérieur du pays en a beaucoup besoin. Il faut vraiment redéployer. Nous sommes entièrement d'accord et nous sommes partants.
Est-ce que ce redéploiement a commencé?
Oui, effectivement, ça a commencé parce que nous avons beaucoup d'agents maintenant qui ont été affectés, tant à Maradi, parce que nous voyons à d'autres qui viennent aussi. Et vraiment, c'est une bonne chose et ils commencent à venir.
Docteur, est-ce que vous pensez que cela est faisable? Parce que nous savons qu'on dit que certains ont des bras longs. Aujourd'hui, dès que l'État commence à vouloir faire cela, le politique va s'y mixer, tout va tomber à l'eau.
En tout cas, cela est faisable parce que le ministre actuel est en train de le faire. Et aussi, c'est une volonté politique. Rien n'est au-dessus de l'État. Nous, ça fait longtemps que le Saint-Famed est en train de dénoncer le fait que l'ensemble des médecins ou la majeure partie des médecins sont restés à Niamey. Or, pourtant, leurs parents, leurs grands-parents, leurs aînés, leurs frères, leurs femmes sont à l'intérieur, sont en train de souffrir. Vraiment, c'est une volonté politique et nous applaudissons et nous allons accompagner le ministre et le gouvernement en général.
Le président a parlé aussi de la situation de ces médecins qui sont au public et au privé.
La médecine, c'est comme la mécanique. Moi, je pense que c'est un métier libéral, c'est un métier qui, si tu finis tes heures, tu peux partir. Ce qui n'est pas normal, c'est de travailler à la clinique pendant les heures du travail. Maintenant, quitte au gouvernement, quitte aux inspecteurs de veiller, quitte aux directeurs généraux et l'ensemble des dirigeants de la santé de veiller à ce que l'ensemble des agents soient sur place pendant les heures du travail.
Nous savons aussi qu'à un moment donné, vous étiez en bras de fer avec l'État. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vos revendications sont satisfaites et tout va pour le mieux?
Non, on ne peut pas dire que toutes les revendications sont satisfaites, mais plutôt, vraiment, c'est un sacrifice que nous sommes en train de faire, que tout le monde est en train de faire. Parce que voyez-vous, on prend un médecin généraliste, on l'amène dans un CSI où il n'y a pas de plateau technique, il n'y a rien. On ne peut pas même mettre en observation un malade. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a rien. Mais on essaie de faire un sacrifice parce qu'il le faut.
Et c'est sous ces explications du secrétaire général à l'information du Saint-Famed Maradi Moussa Kalla que se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez à l'écoute du forum du studio Kalangou. Tout de suite, c'est avec Hamadou Moumoudi.